J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de maîtrise des vents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. Kinshasa et Kampala ne sont pas parvenus à un règlement à l'amiable de leur litige pécuniaire. Après avoir condamné le 19 décembre 2005 l'Ouganda pour son invasion de la République démocratique du Congo en 1998 en violation du droit international et du droit humanitaire, en Ituri, la Cour internationale de justice avait laissé aux deux pays de convenir à l'amiable du montant des réparations. À 3 mois de la reprise devant la Cour internationale de justice du procès, la RDC devrait déposer avant le 6 janvier 2016 son mémoire pour justifier les 10 milliards de dollars qu'il réclame à l'Ouganda. Malheureusement, à ce jour, elle n'est toujours pas en possession des pièces à conviction dans cette affaire. Comment la RDC peut-elle capitaliser les procès en sa faveur dans des contentieux avec d'autres États? En direct, vous pouvez réagir dans ce débat citoyen au 081 890 63 15. Vous avez également la possibilité de contribuer avec vos messages sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiokapi.net. Eric Sidiakala assure la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Magie et Julie Pesa Bongonda, une émission qui vous est coordonnée et présentée par J.R. Nguyenbo sous la supervision de Léonard Moulama. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyenbo.
Voilà, nous avons dans ce studio Maître Urbain Moutoualé, expert en droit et puis résident de la JPTU, Justice pour toute humanité, je crois que c'est cela.
Tout à fait.
Voilà, alors Maître Urbain, vous êtes avec nous d'entrée des jeux. Cette affaire qui oppose Kinshasa à l'Ouganda, à Kampala, est-ce une affaire civile ou une affaire pénale?
Je tiens d'abord à vous remercier de bien vouloir m'inviter, m'associer à cette grande réflexion et à ce débat. Je crois que les auditeurs qui nous suivent ont intérêt parce que votre émission, il a aussi un caractère pédagogique. Je crois que sur le plan de la nature juridique de ce procès, il ne faut pas conférer à ce procès un caractère pénal. Mais plutôt, c'est un dossier qui relève, vous l'avez rappelé, du droit international, parce qu'il s'agit d'un différend qui oppose deux États souverains. Donc, il n'y a pas le caractère ici pénal. Je me réserve également de dire que c'est un procès civil. Ben, plutôt, j'avoue que c'est un procès ou un différend qui relève du droit international, parce que les personnes qui se font ici, il s'agit bien de personnes ou des droits de personnes qu'on appelle le sujet du droit international, en l'occurrence l'Ouganda et la République démocratique du Congo.
Alors, à ce jour, nous sommes à 3 mois de la reprise devant la Cour internationale de justice du procès, donc de la RDC, n'est toujours pas en possession des pièces à conviction dans cette affaire, qui justifierait cette réclamation de 10 milliards de dollars américains comme dommage intérêt.
Tout à fait, il va falloir que je précise que je suis invité sur ce plateau juste pour donner quelques avis sur le plan technique. Mais j'estime pour ma part que ce dossier a été suivi par les éminents confrères. Je cite en l'occurrence mon estimé confrère Maître Kibangu Kalala, qui demain de mettre avec un collectif de conseils, ils ont eu quand même
ils ont eu quand même
à pouvoir assurer la représentation. Et vous allez vous rappeler, je crois qu'il y a quelques semaines, le gouvernement de la République, par le biais de son porte-parole, en l'occurrence le ministre Mendio Malanga, lors de son adresse sur certaines questions qui s'est posées au niveau du pays, a eu le mérite de pouvoir aussi effrôner cette question-là. Et j'ai apprécié lorsqu'il a avoué que la République du Fameux du Congo en était sortie quand même des rallyes parce que nous avons bien des causes. Et que donc, lorsque vous rappelez que la procédure voudrait, ça vient de vous qu'avant le 6 janvier, que notre pays dispose ou envoie au niveau de la Cour les éléments à conviction qui fondent, n'est-ce pas, à la réclamation de 10 milliards. Et vous estimez que le pièce, nous sommes en défaut de pouvoir le produire. Je l'ai dit que la procédure n'a pas été suivie par nous, mais je crois qu'il est de notre intérêt. Parce que vous savez que sur cette instance-là, arriver à obtenir gain des causes, je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même des efforts qui ont été fournis. Et je pense que nous avons intérêt, la République démocratique du Congo, chacun en ce qui les concerne, de sorte que nous puissions capitaliser cet acquis positif, de sorte que ce qui doit être fait soit fait sur le plan de la forme, de manière à ce que nos pièces soient déposées, que nous possédions et que les dossiers soient l'État.
Semble-t-il que les pièces à ce jour sont retenues par le professeur Tshibangoukala.
C'est vous qui m'avez informé. C'est vous qui m'avez informé. Que les pièces seraient détenues par mon estimé confrère Tshibangoukala. Je l'ai dit que c'est pas moi qui ai suivi la procédure. Mais moi, je crois que si on estime que le pièce serait à conviction, bien évidemment, on estime que ce pièce serait détenu par les confrères. Je crois, je ne sais pas quelles sont les raisons qui l'ont motivé à pouvoir les retenir. Mais si ça
l'air que ce n'est plus un secret, c'est passé sur toutes les ondes et aussi sur toutes les chaînes de télévision que le professeur continue à réclamer ses honoraires.
Je crois qu'il y a un problème. Maître Tshibangoukala, là, il est avocat des professions, il est d'une autorité internationale, il a représenté en termes de défense des intérêts de la République de manière valable, et aujourd'hui, la République démocratique du Congo a y avoir gain de cause. Et en tant qu'avocat, il a été engagé, il a y a fourni ses prestations, il est de bon droit que ses prestations soient honorées à la hauteur des convenances qui ont été faites entre lui avec le gouvernement. Donc moi j'estime fondamentalement que si la détention de pièces serait faite par mon estimé confrère à la suite de ses honoraires et qu'il ne serait pas encore engagé, je l'apprends de vous, je n'affirme pas, j'invite le gouvernement congolais à savoir que Maître Tshibangoukala, qui a eu à représenter la République et qui a fait que nous puissions avoir gain de cause, se trouve être en droit de pouvoir être payé. Et je crois que je suis en train de réfléchir à travers les faits qui sont sur la voie publique, mais contrairement à ce que vous dites, nous nous aurions entendu par la bouche du gouvernement, je prends en l'occurrence le ministre Mendo Malanga, qui y a eu à dire, semble-t-il, que
2 millions.
On aurait versé
2 millions de dollars
et que ces 2 millions, semble-t-il, devraient servir à tous les collectifs et que semble-t-il que Maître Tshibango se serait servi seul-même. Je concède ces déclarations à leur auteur. Je n'en ai pas de preuves, mais moi, ce que je plaide, ce que j'avoue, ce que j'affirme ici, est ce que la République démocratique du Congo a été valablement représentée par le collectif des avocats qui ont été pilotés par M. Tshibangoukala. Et moi, j'estime que s'il y a des prestations, s'il y a des obligations que le gouvernement a vis-à-vis de ce fils du pays, j'invite le gouvernement de la République démocratique du Congo à pouvoir honorer les engagements qu'il a eus avec mes confrères, de sorte que la procédure ne puisse pas connaître un quelconque blocage hier.
Voilà, alors là, ça nous pousse droit, avant d'ouvrir les standards, à vous poser la question sur la diligence de l'avocat. Est-ce que ça relève de la compétence du barreau ou de la compétence, je ne sais pas, du magistrat ou du ministère public?
Je suis en train de répondre à vos questions au conditionnel, étant entendu que je n'ai pas été consulté comme étant avocat représentant le pays devant cette instance-là. mais je suis en train de mettre un avis en faisant la compilation de quelques pièces, quelques informations plutôt, qui nous arrivent à gauche, à droite. Et le principe en droit, c'est lequel? Le principe en droit, est-ce que on parle de la rétention illégale de pièces, le fait de pouvoir retenir son droit ni type de pièces, c'est fait là. Le droit positif congolais, le droit pénal, l'incrimine pratiquement l'infraction. Ce sont des principes de droit. Alors, au niveau du barreau, j'ai eu quand même, avant que je ne vienne se planter, j'ai quand même à échanger avec certains confrères qui me disent que, pour d'abord le principe, c'est que le principe en droit, c'est une infraction qui est consacrée. Est-ce que la rétention illégale de pièces, ça, c'est une incrimination qui est exprimée en droit fondamentalement. Cela, vous posez la question de savoir si la rétention peut-elle relever du barreau, tout ça là. Dans le cas d'espèce, s'il faudrait qu'une question prendre le cas de maître Kibangu, j'ai aucune information, aucun élément probant que ce fils du pays détiendrait de manière illégale le pièce dont la République a besoin pour faire valoir la thèse de sa réparation devant la Cour internationale de justice. Non seulement il y a un principe qui régente, n'est-ce pas, le tour du barreau, est-ce que l'avocat, fondamentalement, n'est pas tenu à pouvoir retenir les pièces d'un client, mais il me semble une exception qui a été faite lorsqu'il est établi, lorsqu'il est prouvé que les pièces qui sont détenues par les conseils sont des pièces qui ont été obtenues à sa diligence par le ministère qui l'a y a posé, les actes qu'il y a posés, il me semble qu'il y a quelques règles supplétives qui reconnaissent fondamentalement à un conseil de pouvoir retenir ces pièces-là dès lors qu'il est prouvé, dès lors qu'il est manifesté que ces pièces ont été obtenues à sa diligence à travers le ministère qu'il a couvert et à travers le fait qu'il a posé. Ça, ce sont des principes de gouvernement de manière tout à fait objective.
081-892-6315 pour votre intervention en direct. Si vous êtes à l'étranger, vous avez le droit également à participer à cette émission et à apporter quelques contributions dans ces débats citoyens.
Parole aux auditeurs.
Dans quelques minutes, Maître Georges Kapianga, coordonnateur de la CAGE, va nous rejoindre également dans ces débats pour émettre également son point de vue. Mais Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Maître Papi Kachema, vous êtes à Kinshasa. Maître Sonville, bonjour.
Bonjour, M. Gilles. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Kapianga, la radio Pacifique.
Alors, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. La grande question, c'est comment la RDC peut-elle capitaliser les procès en sa faveur dans des contentieux avec d'autres États. Pour le cas d'espèce, Kinshasa Kampala, l'affaire qui les oppose, le 6 janvier, en fait, 2016, la RDC devrait déposer son mémoire pour justifier les 10 milliards de dollars qu'il réclame à l'Ouganda. Malheureusement, le pays n'est toujours pas en possession des pièces à conviction dans cette affaire, des pièces qui seront détenues par le maître Tshibangu Kalala.
Monsieur Gilles, c'est un sujet qui est très pertinent. Suite d'abord à la liberté, puisque vous savez, l'arrestation est une exception et la liberté est un principe. Moi, je ne comprendrai pas comment est-ce que la RDC a eu tant de causes suite aux diligences de Tshibangu Kalala et que M. Tshibangu Kalala est incarcéré. Au moment où se met le choix au Canada, il n'y a plus même constitué le collectif d'avocats qui a défendu les intérêts de la République démocratique du Congo. Et ce dossier a commencé depuis 2002. Maître Chouan Kalaya s'est beaucoup battu avec ce collectif-là pour que l'RDC puisse recouvrer ses droits. Et le montant a été. Ils se sont entendus jusqu'à 10 milliards de dollars par arrangement à l'amiable. Mais c'est au moment où l'Ouganda devait verser 37 millions de dollars pour le ministre de Justice, que je respecte. Fait saisir du dossier pour demander à Maître Chouan Kalala de déposer le pièce à condition. Au moment où Maître Chouan Kalala n'avait même pas reçu la provision n'avait même pas encore entré en quelque sorte sur son horaire. Puisque les prestations de Maître Soin Canada devaient être honorées. Mais je suis très surpris que le président de Congo, notre beau pays, que je suis d'habitude sur le tapis en défendant la cause du gouvernement, soit incarcéré de cette manière-là. Mais moi, je regrette, je suis un peu abasourdi.
Oui, mais je pense que. Mais
nous cherchons des solutions. Quelles sont les solutions pour permettre à l'équipe démocratique du Congo d'entrer dans ses droits? Moi, j'estimerais que le gouvernement doit chercher un entente avec Maître Simon Kalala qui détient les documents. Puisque Maître Simon Kalala est en train de réclamer les honoraires de ses prestations. Et le gouvernement doit répondre positivement aux réclamations de Maître Simon Kalala. Puisque vous savez, et je suis même surpris du fait que ce dossier-là soit envoyé au niveau du tribunal, soit au niveau de parquet. C'est un problème qui relève de la compétence du barreau. J'ai suivi sur votre chaîne, le conseil barreau de Kinshasa s'est réuni et le conseil a demandé la libération sans condition de mettre Franck Kalala, puisque ce problème relève de la déontologie. Si, au cas où le maître Franck Kalala commettait des fautes par rapport à la déontologie, c'est le conseil, le bâtonnier qui doit se faire du dossier pour peut-être des sanctions disciplinaires. Ce n'est pas du fait que le maître Franck Kalala, puisque vous savez, M. Gier, la RDC est insolvable. Nous avons vécu le problème de l'avion, toujours avec des compromis. Mais le maître Franck Kalala, qui n'a ménagé aucun effort pour que la priorité de l'asile du Congo puisse avoir bien des causes. Est-ce que tout ce qu'il n'est pas encore, ses prestations ne sont pas encore honorées? Comment est-ce que M. Franck Kalala peut avoir confiance à cette République? Et surtout que, d'après les informations à notre possession, ce que nous avons dit, il paraît que on devait de saisir M. Franck Kalala de ce dossier pour le placer dans le cabinet du ministre de Justice. À ce moment-là, M. Franck Kalala n'a pas été d'accord, n'a pas voulu entendre de cette oreille, puisque c'est lui-même qui a même consulté ses deux avocats belges. Tout ce que les avocats belges ne voulaient pas venir
voilà. à la
République de l'Ukraine ne pouvait pas honorer favorablement aller aux prestations.
Voilà.
Mais il faudrait que la République démocratique puisse libérer M. Franck Kalala et trouver un compromis
voilà, pour récupérer les places à conviction. Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous avez évoqué également l'Assemblée Générale ordinaire du barreau de Kinshasa Gombe, qui s'est élue donc le 13 octobre dernier. Et au point 3 des résolutions de cette Assemblée, il est dit ceci: en guise de solidarité, l'Assemblée Générale ordinaire demande à tous les avocats de ne pas occuper pour les intérêts de la République tant que Maître Simon Kalala restera en détention. Voilà, merci beaucoup Maître Sonville. Maître Papi Kachema, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Maître Papi, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Maître Adrien qui est à Kananga. Maître Adrien, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Maître Adrien.
Merci beaucoup, Gère, de la parole que vous m'accordez. Je pense que c'est vrai que c'est un dossier qui avait été gagné par la République démocratique du Congo, il faut le reconnaître. Et au jour d'aujourd'hui, il est prêt qu'il y a un blocage quelque part, le blocage est au niveau de l'exécution. La République démocratique du Congo a attendu de bonne foi, comme nous le disons en droit, pour qu'il y ait une exécution volontaire, mais il y a une résistance. Bon, moi je pense, hier premièrement, il serait d'abord mieux que le gouvernement congolais, avant d'entamer une autre procédure, je vais y arriver, de commencer d'abord par régler ce que moi j'appelle une question interne au niveau de notre pays. Ce n'est pas un tabou que l'un des artisans fils du Congo qui avait fait à ce que notre pays puisse gagner au jour d'aujourd'hui, depuis très longtemps, qui ne cesse de réclamer pour qu'il soit mis dans son droit avec ses honoraires, ce qui n'a pas été fait. Et au jour d'aujourd'hui, suite à ce refus-là, il y a un blocage au niveau des pièces. Il serait d'abord mieux qu'on puisse d'abord régler ce que moi j'appelle un préalable, donc au niveau interne. Et puis, deuxièmement, je pense hier que c'est une opportunité. C'est vrai que lorsque nous lisons les instruments internationaux, il y a une possibilité, parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui avait gagné un procès contre la République d'Isaïe à l'époque, a initié cette procédure pour procéder à la saisine.
Des avions.
Exactement.
Oui.
Donc, c'est une occasion que moi je suis en train de dire, parce que la bonne foi du côté de la partie perdante n'était pas manifestée. Il faut maintenant procéder à une exécution forcée. Cette exécution forcée est passe au préalable d'abord par donc, une certaine synergie entre les avocats, parce que c'est une procédure qui sera initiée par les avocats, ceux-là qui connaissent et qui maîtrisent mieux les dossiers. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'un avocat n'est pas donc irremplaçable, on peut chercher quelqu'un d'autre. C'est vrai, ça peut se faire, mais il serait mieux toujours de recourir à ceux-là qui avaient commencé les dossiers, qui connaissent et qui ont la maîtrise de ces dossiers-là, pour qu'on puisse chercher à exécuter. Donc, le mieux à faire ici, c'est d'identifier d'abord ce que ce pays-là a comme avoir au niveau international. Certes, il y a des ponts, il y a des entonnoirs, il y a des avions qui circulent. Et si on identifie déjà ce bien-là, ce sera une très bonne chose. Et puis, autre chose, chère, je pense que notre pays a tout intérêt de mettre en exergue tous ces instruments internationaux dont je venais de faire allusion pour qu'ils soient mis, donc qu'ils soient, qu'on puisse lui payer tout ce que la justice internationale a reconnu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je crains la procédure qu'on veut entamer par cette instance-là. Il est vrai que l'instance avait laissé tout le monde à l'air pour laisser les deux parties de se mettre d'abord d'accord autour de la modalité de paiement de cet argent. Mais au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain blocage. Maintenant, ce que notre pays doit tirer attention, ce n'est pas se précipiter. Hein. Donc, moi, je ne suis pas, c'est vrai, l'avocat de la République, mais il serait mieux qu'on puisse d'abord désintéresser le professeur Chibangu Kala, l'avocat de la République à l'époque. Si on ne veut plus continuer avec lui, mais à ce moment-là, la République sera en possession de tous les documents que la République a besoin, et un autre peut aussi poursuivre la procédure. Donc, moi, je pense que c'est ça le préalable qu'on pourrait d'abord chercher à juger avant de faire quoi que ce soit.
Merci beaucoup, Maître Brière, d'avoir appelé Kananga. Vous avez évoqué quelques principes de droit qui voudraient bien que le gouvernement puisse laisser en fait à ceux-là qui connaissent très bien cette affaire qui oppose Kinshasa à Kampala de pouvoir poursuivre les dossiers, et surtout que le 6 janvier 2016 nous devons capitaliser ce que la RDC réclame comme dommage et réparation de tout ce que l'Ouganda a commis contre la RDC. Voilà, merci beaucoup, Maître Adrien. On va prendre Confiance qui est à Kinshasa. Confiance, bonjour.
Bonjour, Mbote Djambo à tous les okapistes de la radio de la paix.
Vous avez la parole, Confiance.
Merci pour la parole. En fait, moi, je ne voudrais pas me lancer dans le débat juridique et consorts. Je pense que je suis trop profond dans la matière. Moi, je voudrais beaucoup plus aller du côté du Congo et du peuple congolais. Je pense que dans cette histoire, c'est la RDC qui est faible diplomatiquement. Nous n'avons pas un leadership. Elle est faible diplomatiquement sans leadership. D'abord, payer correctement ceux qui défendent le dossier. Et moi, je pense que c'est un élément qui affaiblit les arguments avec lesquels on peut aller pour gagner un procès. Il est vrai que ça a été voulu pour que ça s'arrange à l'amiable. Mais moi, je suis contre que ces histoires s'arrangent à l'amiable. Bon, c'est déjà décidé, c'est bon. Mais jusque-là, vous allez voir que c'est un dossier qui se traite entre amis, des pays amis, des pays qui ont aidé un autre pays ou d'autres dirigeants à avoir le pouvoir. Et il y a une certaine partie de choses qui ne sont pas dites. Il y a des dettes, il y a des dettes morales, des redevances. Et ce sont des petites choses-là. Il faut que ça n'avance pas. Alors, quand il y a quelqu'un qui veut fourrer son nez dedans et qui voit réellement les intérêts, ça pose un problème. Moi, je vais du côté du peuple congolais. Actuellement, où on a besoin de 2 petits milliards pour organiser les élections, nous avons 10 milliards qu'on n'a pas su défendre depuis 2005. Ça fait mal. Ça fait mal à la radio. Ça fait mal de l'entendre, pour voir que nous avons des dirigeants, mais qui, en principe, ne voient pas, ne cherchent pas à capitaliser, à faire des choses qui sont très importantes. Voilà une occasion qui nous a donné. Il est vrai que c'est le sang congolais qui a coulé. Il est vrai que ce sont les biens congolais qui ont été pillés. Il est bien que c'est l'instabilité du Congo qui a été menacée. Alors, pour que toutes ces histoires-là, aujourd'hui qu'on a une occasion de prouver pourquoi vous nous dites que nous devons vous payer 10 000 dollars. Nous sommes incapable de le faire. Et qu'en réalité, ça a été traité dans les années.
Merci beaucoup.
C'est là où ça fait mal. Ça fait vraiment mal.
Merci beaucoup, confiance.
Donc, pour moi, la solution, parce que bon, nous n'avons pas assez de temps, mais sinon, pour moi, c'est un dossier qui devait être traité, posé avec des dirigeants en dehors de ce qui le traite maintenant.
Merci beaucoup, confiance, d'avoir appelé 081-800-9-75 pour votre intervention en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Capi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Capi.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, nous revenons dans ce studio. Merci de votre fidélité à Radio Capi si vous nous rejoignez. Bienvenue donc dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Voilà, alors nous saluons l'entrée dans ce studio de Georges Tapiamba, qui est coordonnateur de la CAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Bonjour, Maître.
Bonjour.
Voilà, alors on va revenir à vous. Maître Urbain Moutalé, vous venez de suivre cette série des auditeurs. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à leur inquiétude? Parce qu'il y a d'aucuns qui ont aussi parlé des préalables qui doivent être pris en compte pour que nous arrivions quand même à capitaliser ces procès. Comment vous réagissez?
Tout à fait, J.R. Moi, j'ai eu le mérite de pouvoir le souligner en disant que je crois que le problème est pas tout à fait simple. Mais d'abord, je salue ici l'option qui a été levée par le barreau, qui appelle tous les confrères à la solidarité. Je salue ces décisions-là. Et en même temps aussi, il me semble que le baron de l'option en disant qu'aucun confrère ne peut succéder à Maître Tshibangu autant que ses droits ne seront pas encore honorés. Et en même temps, je voudrais aussi apporter un éclairage par rapport à une déclaration qui est faite par un des auditeurs ici. Je crois que par rapport à ces différends qu'il y a eu à opposer l'Ouganda à notre pays, il y a eu pratiquement deux phases, je peux le résumer. La première phase, c'était la phase du contentieux lui-même, du fond de question lui-même. Et j'ai à le rappeler que la République a été valablement représentée par Maître Tshibangu, avec le collectif de conseils qu'il avait mis en place. Et j'ai également de rappeler que le gouvernement a reconnu que la République a eu bien des causes, et ça c'était la première phase du conflit du fond, et donc nous avions obtenu bien des causes, et il me semble que l'arrêt de la Cour avait laissé la latitude à ces deux États de pouvoir procéder à l'arrangement amiable en ce qui concerne le montant de réparation. Donc, la précision que je vais apporter, c'est que l'arrangement amiable ne portait pas sur les fonds de litige, mais ça portait plutôt sur la réparation après déjà que la condamnation soit établie à charge de l'Ouganda et que la liabilité pouvait être faite en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'arrangement à l'amiable. Et moi, je crois que il est important, hier, que nous puissions fondamentalement capitaliser cet acquis-là. Vous savez, j'ai eu à pouvoir le rappeler que s'engager dans une procédure, ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de tact, et nous sommes très heureux que la République démocratique du Congo en soit sortie vendredi, mais c'est important que nous puissions capitaliser cela, de sorte qu'avant le 6, que toutes les procédures préalables qui sont requises avant la reprise de cette instance-là soient mises en contribution. C'est-à-dire que si à l'interne il y a des obligations qui doivent être honorées vis-à-vis de Maître Thibon Kalala, parce que c'est lui qui a eu à amener la procédure, celui qui a eu la maîtrise de cette procédure-là, de sorte que les arrangements, les incontences au niveau interne soient faites, de sorte que, avant les 6, qu'on ne relâche pas, de sorte que nous puissions capitaliser fondamentalement cette procédure.
Merci beaucoup, Maître Ibal. Nous accueillons également Georges Capenda, coordonnateur de la CAJ, Association Congolaise pour l'accès à la justice. Vous venez de suivre Maître Ibal, et également certains auditeurs qui ont précédé dans cet échange citoyen. Mais je retiens une chose aujourd'hui. Les débats, je crois que nous devons tirer quand même le feu au clair avant de rentrer dans le débat. 2 millions de dollars versés auprès de Félicia, pardon, de Maître Thibon Kalala. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vrai? Qui dit vrai? 2 millions, Thibon n'a pas pu partager avec d'autres avocats? Vous avez suivi cette affaire.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation à cette émission. Je crois que il est important que nous puissions, en tant que responsables, dire la vérité, rien que la vérité. Vous savez, notre organisation, nous sommes très engagés dans le monitoring. Nous avons y amené des enquêtes, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, comme auprès de certaines autres personnes qui sont impliquées dans ces dossiers. Nous sommes rendus compte de faits qui sont indiscutablement établis. Premièrement, en ce qui concerne l'allégation de 2 millions de dollars qui a été lancée par le porte-parole du gouvernement, il s'est établi, même auprès du ministère de la Justice, que ce sont les pires allégations qui sont fondées sur aucun fait vérifiable. Et pour davantage vous le démontrer, nous avons été même à l'audience lorsque M. Thibon Kalala a été présenté en chambre du conseil. Il a été établi que sur base de la propre plainte du ministre de la Justice, envoyée au procureur général de la République, il n'est fait nulle part état de 2 millions de dollars. Donc c'est de la pire fumée. Deuxièmement, en ce qui concerne l'affaire de 60 000 euros, nous avons eu des discussions avec les officiels du ministère de la Justice. On ne veut pas les citer ici parce que c'est dans le cadre de notre travail. Il a été établi clairement que même en ce qui concerne ces montants, il n'existe aucune plainte déposée par un quelconque membre de l'équipe qui a travaillé avec M. Thibon Kalala à l'époque contre lui en rapport avec la dite somme. Il n'y a que le ministre de la Justice qui a évoqué ça dans sa propre plainte. Alors, nous avons reposé la même question, mais alors, qu'en est-il de la suite de ces 60 000 euros? On nous fait savoir que les deux professeurs qui étaient concernés par la dite somme auraient été déjà désintéressés. Nous nous sommes posé une autre question de savoir, mais comment vous pouviez aller vite en besoin si réellement il y avait un litige de 60 000 euros, vous deviez attendre la suite de la procédure pour que Maître Thibon Kalala soit tenu ou contraint à les rembourser si réellement cette somme avait existé. En réalité, l'affaire de somme d'argent n'est qu'une fumée, comme nous l'avons dit. Mais maintenant, vous savez, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme, nous sommes plus préoccupés par les intérêts des victimes et les intérêts aussi de notre République, la République démocratique du Congo. Et c'est sur ça que nous avons beaucoup insisté au niveau du ministère de la Justice pour dire, voilà, le ministre de la Justice, il est ministre de la Justice, mais aussi des droits humains. Il sait qu'en tant que ministre des droits humains, il ne pouvait pas, lui, signer une plainte, déposer cette plainte auprès du parti général de la République contre une personne qui a travaillé pour le compte de l'État, qui a signé un contrat de droit privé avec l'État, et aller jusqu'à faire agir la puissance de l'État sur le magistrat pour qu'il soit mis en détention jusqu'à ce jour. Nous avons dit qu'il s'agit là d'un abus de pouvoir, un abus de puissance, et nous vous demandons de pouvoir les faire libérer et regretter ces faits-là de manière publique parce que nous ne pouvons pas attendre ça d'un ministre des droits humains. Et enfin, il faut constater aujourd'hui que nous sommes devant un grand dilemme. Nous avons un procès qui doit reprendre le 6 janvier 2016. dans lesquels il faut que la République aille défendre non seulement ses intérêts à elle, parce que une partie du territoire a été occupée illicitement par l'Ouganda, mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont devenues aujourd'hui victimes de cette occupation, mais aussi des autres exactions qui ont été commises par la même armée ougandaise, mais aussi à la suite des affrontements qui ont eu à Kisangani en 2000. C'est soit Kisangani ou à Ituri et ailleurs. Donc ici, il est question de pouvoir aller défendre les intérêts de la République et de
ne peut défendre ses intérêts que Maître Tshibangu Kalala. C'est vrai, nous avons entendu des auditeurs qui ont dit que aucun avocat n'est indispensable.
Oui,
et le gouvernement se saisit parfois de cette histoire.
Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous pensons par contre que Maître Tshibangu Kalala est indispensable et qu'il faut savoir le remercier, il faut savoir reconnaître son apport, ni était son travail pendant 12 ans avec l'équipe qu'il avait mise en place. La République ne pouvait pas parvenir à faire condamner l'Ouganda. Il faut qu'on s'interroge ou qu'on interroge notre histoire. Combien de fois la République a-t-elle gagné des procès sur le plan international? Donc c'est un fait à ne pas oublier. Mais maintenant, il y a la reprise du procès, la réorganisation de la défense pour la République et les victimes. Nous pensons que cela ne peut se faire que si Maître Tshibangu Kalala est remis en liberté. Parce que déjà son arrestation et sa détention actuellement sont arbitraires. Il faut qu'on les remette sans condition en liberté et puis que la République, le gouvernement à travers le ministère de la Justice, accepte de respecter la procédure, la loi sur les barreaux qui impose à ce qu'en cas de litige procédant de problèmes de gestion des dossiers entre l'avocat et son client, parce que l'État était engagé comme client et non pas l'État avec la puissance, il faut s'adresser au Conseil de l'Ordre. C'est l'unique tribunal compétent pour régler cette question. À ce moment-là, Maître Tshibangu Kalala en liberté, avec l'arbitrage du Conseil de l'Ordre, on pourra trouver la solution. Il pourra remettre le dossier. Si la République pense qu'elle peut encore lui renouveler sa confiance, elle le fera. Si elle pense qu'il faut trouver un autre avocat, cela pourra le faire qu'aujourd'hui, amener tout un pays dans un litige où nous nous retrouvons avec la profession d'avocat. Les 5000 avocats déjà du barreau de Kinshasa ont voté de boycotter toutes les affaires de l'État. Donc, c'est une crise sérieuse et nous pouvons continuer à y assister.
Voilà. Nous l'avons d'ailleurs dit, on va y revenir sur ça. Le temps de repasser de l'autre côté du standard et nous reviendrons à vous, nos deux invités, Maître Hubert Moutoualé et Maître Jean-Jean Kapiamba, coordinateur de la CAJ. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Félicien.
Oui, mais moi, je voudrais poser la question, qu'est-ce qui se passe-t-il exactement avec notre pays? Les armées des pays voisins nous entrent dedans, elles tuent, elles pillent, elles violent et elles sortent librement. Les rebelles des FDLR tuent, pillent, violent la République démocratique du Congo, mais n'attaquent pas les Rwandais. Ceux de l'ADF Nalu font la même chose, mais laissent l'Ouganda tranquille. La LRA de Joseph Kony fait des ravages en République démocratique du Congo et non au Soudan. Or, par définition, une rébellion ne peut contester et déstabiliser que le pouvoir établi dans son propre pays. Alors, il y a lieu de conclure que c'est une attaque organisée et planifiée contre notre pays dans le but de les déstabiliser et les balkaniser. Ce qui est étonnant, même la communauté internationale est très passive à ce sujet. Mais ce qui est plus étonnant, c'est le comportement de nous-mêmes, Congolais. On ne peut pas comprendre que des millions de compatriotes soient massacrés, décimés, et la vie continue comme si de rien n'était. On peut comprendre que 17 ans après cette invasion ougandaise, le dossier de la RDC ne soit pas encore déposé à la Cour suprême de justice, et c'est maintenant qu'on est en train encore de chercher des éléments, des preuves, de tout ça qui justifie les 10 milliards. En fait, ce n'est pas les 10 milliards qui devraient nous intéresser, mais c'est l'honneur de notre pays qu'on doit chercher à rétablir. Et quand on est en train de tergiverser comme ça, quand on est en train de malfaiter encore ceux, les fils et filles de ce pays qui se sont mis dans un dossier pour que ne fût-ce que l'honneur soit sauvé, on doit se demander si nous ne souffrons pas à cause de notre comportement, s'il n'y a pas de complices ici à l'intérieur du pays. Il y a lieu de se demander si le président de la République n'a pas raison de dire qu'il est à la recherche de 15 oiseaux rares et qu'il est mal entouré. Comment les gens qui sont chargés de gérer la République peuvent se comporter de cette façon-là? Même ne plus que pour l'honneur de la République, même si on n'a pas les 10 milliards, on ne peut pas chercher à gagner ce procès. On doit au contraire être à l'intérieur en train de se déchirer soi-même, en train de maltraiter ceux qui, depuis ces filles qui devaient être au contraire mis dans des conditions meilleures pour que nous puissions gagner ce procès, pour quand même montrer au monde que nous sommes un peuple. C'est tout le monde qui devait être mobilisé, c'est tout l'appareil de l'État qui devait être mobilisé, et ces gens-là devaient être mis dans des conditions pour qu'ils travaillent et qu'ils puissent gagner. Mais 10 milliards, c'est quoi par rapport à tout ce que nous avons perdu comme vie humaine et par rapport aux dégâts matériels que ces gens-là ont causés dans notre pays? Non, c'est pas comme ça que nous devons être. Que les Congolais comprennent que nous sommes un peuple, nous ne devons pas nous dire grand peuple, mais dans l'intérieur, nous ne représentons rien. On ne peut pas dire grand Congo avec beaucoup de richesses, mais en réalité, nous ne représentons rien. Ne faites pas honte. Les enfants auront encore honte des années, des générations, des générations. C'est pas bon ça.
Merci beaucoup Félicien pour vous, donc les traitements que doivent bénéficier ceux qui ont travaillé sur cette affaire devaient être un peu spécial et particulier. Le cas, si je vous ai bien suivi, le cas de Maître Tshibangu Kalala devait être vraiment pris au sérieux par les gouvernements responsables pour que finalement on ne puisse pas réserver un traitement qu'il a subi d'être arrêté. Et l'a dit Maître Adriel, l'arrestation c'est le principe et la liberté c'est le... Merci beaucoup Félicien d'avoir appelé les Kinshasa. Maître Papi Kassema, vous êtes à Kinshasa également. Bonjour.
Bonjour M. Chirac, bonjour aussi à tous les invités et à tous les auditeurs de Radio Kami.
Vous avez la parole. Quel est votre avis?
Ok, merci beaucoup. D'entrée de jeu, moi je dirais que la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de la Justice, doit savoir que ce dossier ici, ce litige qui nous oppose de l'Ouganda, servirait de leçon pour d'autres pays qui nous sont voisins, donc notamment les agresseurs de la République démocratique du Congo. Parce que lorsque l'Ouganda est condamné à des milliers de dollars, les autres qui tenteraient d'imiter l'Ouganda ne le feront plus à l'avenir. Donc c'est mieux que la République puisse prendre les choses au sérieux pour que ça ne se répète pas. Alors, j'ajouterais seulement que au regard de la loi, comme les invités et les autres auditeurs l'ont déjà dit, donc là, je cite l'article 79 de la loi organique au Ganda de Barou. L'article dit quoi, monsieur Jure? L'avocat est tenu de restituer sans délai les pièces ou sommes dont il est dépositaire, dès qu'elles ne lui sont plus nécessaires pour la défense de la cause. Il peut toutefois exercer les droits ou son droit de rétention sur les pièces dites assez diligentes jusqu'à ce qu'il ait été honoré. Bon, moi, je n'ai pas avec moi tous les éléments d'appréciation pour ce dossier-là, mais au regard de la loi, s'il s'avérait que M. Tshibangu Kalala n'avait pas été honoré, donc c'est grâce à sa diligence que ses pièces à conviction ont été retenues ou récites, c'est mieux que la République mette un peu de vœux dans son verre pour revoir cette situation-là. Parce que ça fait la honte de la République, M. J.R. C'est que ce qui fait la honte de la République, étant que tel, donc le ministre de la Justice, devait, comme les autres l'ont dit, saisir d'abord le Conseil de l'Ordre. C'est lui le juge naturel de l'avocat. Donc c'est mieux que la République revienne à sa raison. En plus de cela, M. J.R., c'est vrai, on dit que l'action pénale est indépendante de l'action disciplinaire ou administrative et vice-versa. Mais étant donné que l'une des parties de litige, au litige plutôt, est la République démocratique du Congo, il serait mieux que la République puisse d'abord privilégier l'instance disciplinaire. ou administrative avant d'entamer l'espace pénal. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire qui concerne les maîtres du monde comme la République. Mais maintenant, tous les Congolais en sont au courant, ça fait déjà la honte, messieurs. Donc,
voilà. Merci beaucoup, papy. Merci beaucoup. On va prendre d'abord les réactions dans ce studio. On commence par Jean.
Oui, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les interventions de tout à l'heure, mais je voudrais préciser aussi une chose, c'est que le parquet général de la République n'est pas compétent en la matière. Ça, c'est la première chose. Les lois de la République doivent être respectées par les citoyens, mais aussi par tous les pouvoirs publics, y compris les membres du gouvernement. En d'autres termes, le ministre de la Justice, qui a eu à signer la plainte contre le professeur Tshibangu Kalala, a eu tort de le faire. Il aurait dû s'adresser au Conseil de l'Ordre pour montrer que c'était un bel exemple qui venait de sa part. Enfin, il faut que les gens retiennent. Les dossiers aujourd'hui comportent aussi des intérêts importants en ce qui concerne l'État congolais. Parce que déjà, à part le travail de Maître Tshibangu Kalala, la République a gagné le procès en 2005 en obtenant au moins le principe de condamnation de la culpabilité constatée contre l'Ouganda et l'obligeant à pouvoir payer des indemnisations. Les partis ne se sont pas mis d'accord sur le montant que l'Ouganda devait payer. La République a demandé 23 milliards, l'Ouganda a proposé 37 millions.
Semble-t-il que c'est Maître Tshibangu qui a même fait les
calculs. Et d'ailleurs, c'est par son travail que le montant de 23 milliards a pu être calculé et aussi justifié. Et cela est justifié par les pièces qu'il retient aujourd'hui qui ont été réalisées grâce à son imagination. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain, parce qu'on est État, parce que quelqu'un qui a travaillé ne peut pas mériter un salaire conséquent. Enfin, ici, nous revenons sur la question de l'État. Nous devons savoir que dans chaque État de droit, on doit respecter les principes qui gouvernent les dix États. C'est sur ça que je reviens toujours pour rappeler que le ministre de la Justice sait très bien qu'à la suite de la modification de notre Constitution, les magistrats des parquets sont placés sous son autorité. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas déposer la plainte auprès des mêmes magistrats, tout en sachant que le faisant, il agissait, il exerçait une pression et qu'il allait facilement leur donner des instructions dans le sens qui allait faire empiéter les droits fondamentaux de l'autre partie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les magistrats ne peuvent pas accorder ne fût-ce que la liberté provisoire à Maître Tshibangu Kalala, en dépit du fait qu'il réunit toutes les conditions qui sont posées par la loi. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Justice exerce cette pression. Et nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous condamnons cela. Parce que c'est un abus de position, un abus de pouvoir. On ne peut pas l'accepter, l'admettre.
Voilà. Alors, Maître Urbain Moutalé, arrestation arbitraire, ça s'entend clairement aujourd'hui. Il s'agit d'une arrestation arbitraire, mais qui peut coûter quand même à la République avant les 6 janvier.
Vous savez, il y a deux petits éléments que je voudrais juste ajouter à ces commentaires brillants de mon co-débatteur et de tous les auditeurs aussi. Vous savez, la plainte me semble qu'elle avait été signée par le ministre de la Justice. Je n'ai pas eu l'avantage de pouvoir la lire pour savoir comment il a articulé cette plainte-là. Pour peu que nous sachions, je ne sais pas quels sont les faits qu'on impute à Maître Tshibangu, mais il me semble que on les pite. Semble-t-il que les 10 millions qu'il aurait reçus, qui fait aux conditions qu'il aurait reçus, Bon, je n'ai pas eu la plainte par rapport à cela. Le principe en droit, c'est que même lorsque une personne fait l'objet d'une instruction au niveau du parquet, la loi des procédures prévoit les conditions pour lesquelles une personne peut être mise en détention. Et le principe sur la liberté et que la détention est une exception parce que le parquet mène encore des enquêtes. Mais dès lors déjà que les conditions qui prévoient et qui militent que la personne ne peut pas être détenue et que cette personne continue à être détenue,
je crois que nous aussi, au niveau de la JPTI, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous pensons qu'il s'agit là d'une détention qui n'est pas justifiée. Maître Tshibango, c'est quand même une personnalité dans ce pays. C'est un grand enseignant, c'est un professeur, un avocat de l'ordre international. Il a un domicile connu ici.
La fuite n'est pas à craindre.
Je crois que tous les éléments, les préalables qui sont posés par le règle des procédures étant réunis dans son chef, en tout cas, objectivement, je ne trouve pas en quoi est-ce que la liberté provisoire ne peut pas lui être accordée. Un élément. Pour finir, hier, on a posé la question sur l'indispensabilité ou non de Maître Tshibango sur la poursuite de cette procédure devant l'instance internationale. Moi, je prends ma responsabilité en disant Maître Tshibango Kalala est un sommaire indispensable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui aime la procédure, c'est lui qui a mis en place
les
aboutissants. Et je crois qu'aujourd'hui, si la République s'engageait dans une entreprise de pouvoir le succéder à d'autres conseils, je crois que ils auront parti sur des bases qui sont très...
Voilà, c'est de cette façon-là qu'on va capitaliser ça. Pour faire, vous êtes à Kindou, Israël, à Kikwit, Maurice, à Kinshasa, on va vous accorder 40 secondes, en tout cas à chacun, parce qu'on a plus de temps. Pour faire, vous êtes à Kindou, bonjour, pour faire. Prosper, vous êtes avec nous? Israël, vous êtes à Kikwit.
Oui, je suis à Kikwit.
Voilà, Israël, vous avez la parole en 40 secondes, s'il vous plaît.
Ok, ben c'est bien, monsieur le journaliste. Bon, je voulais juste un peu donner certains éclaircissements par rapport à ce que les précédents ont déjà dit. Nous, aujourd'hui, nous sommes rentrés de nous contenter pour le problème des 10 milliards. C'est parce que il y a des gens qui ont fourni de leurs efforts de sorte qu'aujourd'hui, nous puissions avoir accès à ces 10 milliards-là. Mais normalement, moi je demande un peu à notre ministre de la Justice s'il peut accepter de pouvoir un peu libérer Maître Tshibango Kalala par rapport aux efforts qu'il avait fournis parce que sans lui, peut-être nous on allait aussi perdre donc le procès. Bon, si on avait gagné ce procès, c'était juste par rapport aux efforts que Maître Tshibango Kalala avait fournis. Bon, à travers donc les efforts que Maître Tshibango Kalala avait fournis, il peut être aussi donc libéré à travers donc ces efforts. On le remercie.
Voilà, merci beaucoup Israël. Je crois qu'il y a un auditeur qui nous a écrit dans son message. Il dit bon, on ne doit pas supplier le message de justice, mais la loi qui demande, en fait, comme l'a dit un de nos invités, la liberté, c'est le principe, et puis la détention, c'est les questions. Voilà, donc il n'y a pas à supplier, mais c'est plutôt la loi qui demande à ce qu'on puisse les libérer. Merci beaucoup Israël. Maurice, vous êtes à Kinshasa. On va terminer avec vous, Maurice.
Oui, bonjour Jérôme Ndembo. En fait, la première question que je suis en train de me poser depuis le début de cette émission, est-ce que qui dit, en fait, la vérité? Est-ce que la vérité se trouverait du côté du gouvernement, à travers son ministre? Parce que tenir ce genre de propos, si c'est vraiment un mensonge, ce mensonge est vraiment grossier. Même si on voudrait noyer son chien, on l'a accusé de, on l'a fait de rage, je pense que pour régler des comptes à un homme politique, peut-être il y a eu, comme certains le disent, il y a eu un problème au niveau de l'interprétation, je ne sais pas, d'une émission où Maître Tshibango, c'est plutôt...
Donc, on a donné la parole aux auditeurs
sur la radio Kati.
Mais sa dernière intervention, la parole aux auditeurs, pour les cas de la Cour constitutionnelle.
Oui, c'est réellement, c'est par rapport à son intervention, je pense qu'il y a mille et une moyens, en fait, mille et un moyen de poursuivre quelqu'un ou de régler les comptes à quelqu'un, mais tenir ce genre d'allégations, ces mensonges de 10 millions de dollars américains qu'il aurait empoché et qu'il n'aurait pas en fait distribué comme convenu au collectif en fait d'avocats qui l'accompagnait au niveau de la Cour internationale de justice plutôt. Je pense que ça serait vraiment manquer vraiment du respect à un avocat de patron.
Voilà, Maurice, dommage. Désolé, on ne saura pas vous répéter encore longtemps à l'antenne parce qu'il nous reste 2 minutes. On va accorder la parole à nos invités pour qu'ils puissent conclure dans cette émission. On commence par vous, Maître Urbain Mouchalé. Vous avez été au début de cette émission avec nous, avec tous les auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette affaire? Comment faire pour capitaliser?
Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est deux choses. La première, c'est que j'invite l'ensemble du gouvernement à pouvoir capitaliser ces procès. C'est vrai, nous avons eu beaucoup de problèmes dans l'histoire du pays quand même, arriver à pouvoir avoir gain de cause, c'est pas toujours chose facile. J'invite donc l'ensemble du gouvernement à mettre en place ce qu'il faut, de sorte que les dividendes de cette procédure soient accordés à la présidente du Congo, et en même temps aussi, en tant que conseil, en tant qu'avocat aussi, ici je voudrais réitérer aussi ma solidarité à mon estimé confrère Nelson Kalanga et Kalala, et j'invite l'ensemble du gouvernement, parce que le gouvernement de la République s'est engagé à mettre Tshibango en tant que client et en tant que pouvoir public, en tant que client, et j'estime qu'il y avait déjà des accords qui étaient conclus entre M. Tshibango avec le gouvernement. J'invite donc le gouvernement à pouvoir honorer son engagement, de sorte qu'avant les 600, que tous les préalables soient mis en embarras pour que la police continue.
Alors, Georges Katamba ? Oui, la première chose, c'est que d'abord, les allégations de 2 millions de dollars sont totalement infondées. Les engagements ne peuvent engager que l'auteur qui en avait divulgué, parce qu'au terme de nos enquêtes, nous avons constaté qu'il n'y a aucun élément objectif pouvant justifier cette allégation. Deuxièmement, nous exigeons encore la libération de M. Tshibango Kalala, parce que nous considérons que son arrestation et sa détention sont totalement arbitraires, et qu'il s'agit là d'une illustration d'un système qui voudrait instaurer l'instrumentalisation de la justice pour faire du mal aux autres. Et enfin, nous exigeons à ce que le maître Tshibango soit remis en liberté et que le conseil de l'ordre soit saisi de manière à lui permettre de traiter cette question et de
l'évaluer. Voilà, profitez-moi pour conclure en rappelant la dernière résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 2015 du barreau de Kinshasa Gombe. Point 3, il est dit, en guise de solidarité, l'Assemblée Générale Ordinaire demande à tous les avocats de ne pas occuper pour les intérêts de la République tant que Maître Tshibango Kalala reste en détention. C'est par ici que nous mettons un terme à ce débat citoyen. Merci à vous tous qui avait contribué à sa production et surtout à son analyse. Nous disons merci à Hérité Sidakala qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Meji et Julie Feijabonganda, une émission qui vous a été coordonnée par J.R. Nguembo sous la supervision de Léonard Moulaba. Merci à nos deux invités, Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAJ, et Maître Urbain Moutoualé, expert en droit et résident de la JPTU. Nous allons vous retrouver prochainement dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.